Vous écoutez
RMC. RMC, le vestiaire des GG.
Les GG, ce qui a attiré notre attention cette semaine, c'est que l'on a plusieurs sportifs qui sont en ce moment totalement on fire, comme on dit, Marion, qui surperforment par rapport à ce qu'on était habitué à voir de leur part, ou qui marchent sur l'eau, tout simplement. On a Wemby avec San Antonio, vous le savez, ils sont à 5 victoires, 0 défaites, et il enquille un nombre de points et de rebonds à chaque match d'une manière impressionnante. Simon Gauzy, on l'a dit il y a quelques instants, qui a tapé pour la première fois Félix Lebrun, et pourquoi pas pour aller gagner pour la première fois un tournoi. Valentin Vachereau, évidemment, on en a beaucoup parlé. 10 victoires consécutives en Masters 1000. On a cru qu'il était capable même d'aller au bout.
Le GC Nice, qui vient de remporter 3 victoires consécutives et qui va continuer cet après-midi. Peut-être.
Exactement. État de grâce.
État de grâce.
Non, mais c'est vrai, l'impression que ces athlètes et cette équipe, donc, ne touchent plus terre. Tout ce qu'ils tentent en ce moment marche. Ils sont dans la zone, comme on dit. Les GG, aujourd'hui, à travers vos expériences, je voudrais qu'on parle ensemble de ça, de l'état de grâce. On en a parlé avec Christophe. Comment gérer l'état de grâce. Vous avez tous connu ça dans votre carrière. On va faire un petit tour de table. Tiens, Denis, on va commencer par toi. Denis, l'état de grâce, tu l'as connu ?
Oui, tout le monde l'a connu quand tu es sportif. Ouais. Il y a un moment donné où tu... tout ce que tu fais, ça marche. Voilà.
C'était quand pour toi, tu te rappelles ?
Ah ouais, dans les années 86-87, c'était un master. Mais c'était collectif aussi, c'était avec moi.
C'était quoi, l'équipe master, du Stade Toulousain. Comme une Coupe du Monde des clubs, c'est ça ?
Oui, c'est ça, au Stade Toulousain. Et c'est vrai que même collectivement, tout ce qu'on tentait, ça réussissait. On l'avait gagné facilement. On avait battu les Australiens en demi-finale, les Néo-Zélandais en quart. Enfin, tout nous souriait. Et puis c'est vrai que tu étais... au niveau technique, au niveau physique, tout était là, tout était réuni. Mais quand tu dis comment gérer l'état de grâce, tu le gères pas, tu le vis. Moi, c'est pas gérer, c'est compliqué, parce que même quand tout se passe bien et que tout ce que tu fais, ça marche, tu te poses même la question, tu dis mais que ça va s'arrêter à un moment donné.
Ah oui, mais c'est ça justement, tu te poses la question de savoir quand ça va s'arrêter et tu redoutes ce moment.
Mais surtout avant que ça se passe, tu as vécu des moments où c'est en dents de scie, t'es un peu moins bien. Et puis
tu sais même pas pourquoi il arrive cet état de grâce.
Oui, tu sais pas. Alors, dans mon sport, qui est un sport collectif, souvent c'est lié aussi à la qualité du collectif, aussi à la dimension de tes partenaires, de la qualité de tes partenaires.
Mais tu te sens comment ? C'est quoi ? T'as l'impression que tout marche au ralenti à côté de toi, que toi tu vas plus vite ?
Non, ce qui est fou, c'est que tu sais que à l'avance, quand tu es dans cet état-là, que tout ce que tu vas faire, tu vas le réussir. C'est surtout clairement. Ça, c'est cette impression de facilité, quoi. Alors que c'est tellement dur, quoi. Mais toi, tu es dans une espèce d'inconscience total qui te fait dire que t'es le meilleur et que tout ce que tu vas faire ça va réussir. Mais ça dure pas, évidemment.
Ça dure pas, tu la gères pas, elle te tombe dessus.
Oui, tu peux pas la gérer.
Quelques méga stars qui ont réussi à faire durer l'état de grâce.
Oui, mais ça oui, non, mais même Michael Jordan, regarde Michael Jordan qui avait un état de grâce incroyable pendant sa carrière, à un moment donné, il a eu un trou terrible.
Oui, non, mais l'état de grâce, il est surtout présent
longtemps pour servir.
Il est surtout présent chez le sportif pas l'ultra champion, pas la superstar, celui juste en dessous.
Comme Vacheron peut-être en ce moment.
Ouais, voilà, c'est un moment où tu vas toucher les meilleurs,
tu sais pas pourquoi. Tu n'as pas la réponse.
Ça te tombe dessus et tu sais que ça va s'arrêter.
Bah toi, par exemple, Jérôme.
Non, mais tu l'as à n'importe quel niveau.
2010.
Oui, à n'importe quel niveau.
Moi, en 2010, j'étais au fond du seau à la Flèche Brabançonne. J'ai dit à mon entraîneur à l'époque, qui est aujourd'hui le manager général de Lidl Trek, Luca Guartinena. J'ai dit, Luca, il faut que j'aille faire le Giro, il me faut de la compète, il faut que je parte, il faut que j'aille faire des courses. Et il me met sur le Giro. J'arrive sur le Giro sans aucune certitude. Et dès la première étape, je ne sais pas ce qui se passe. Et ça va très bien, tout se passe super bien. On gagne avec l'équipe, alors qu'on avait une petite équipe Quick-Step, on était très critiqués. Et ensuite, je gagne la cinquième étape à Hanovy-Ligurée en disant le matin à deux, trois Français, venez, on va dans l'échappée parce que ça, aujourd'hui, ça va aller au bout. Quand je suis devant, le peloton est derrière à 2 minutes à peine. Je sais que je vais gagner.
Ah oui, déjà, tu sais que...
Je lance le sprint et tactiquement, c'est pas la meilleure chose que je fais dans ce final, mais je gagne quand même, alors que je dois être battu.
Et tu te poses des questions ou non?
Mais à aucun moment. Je savais que j'allais gagner. Et le pire, c'est que 2 jours après, et là, c'est là où tu te dis, dans cet état-là, tout arrive et finalement, tu te prends un peu pour un autre. 2 jours après, j'ai fait rire Georges déjà avec cette histoire. Je descends du bus, la 7e étape. Je prends mon vélo. Je suis en basket. Il y a un espèce tombes. De monument pour aller signer la feuille d'émargement. Non, je suis en basket. Je reviens au bus et je dis, faut faire une tactique, il faut me déposer au pied de la bosse, je vais gagner aujourd'hui aussi. Ça m'est jamais arrivé dans mon carrière de dire ça autour de moi. C'est le Giro d'Italia quand même.
T'es un peu comme habité, quoi, on va dire.
Et le fait est, c'est que donc j'ai dit ça à David Ebramati, qui est un directeur sportif emblématique. Il me dit dans son italien, il me dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Je dis, on fait ça. Tu me déposes au mieux. Tu dis au gars qu'il me dépose au mieux au pied de la bosse.
Et tu gagnes.
Je vais attaquer. Je fais ce que j'ai dit. J'attaque. Et là, je suis échappé avec Danilo Di Luca, Vino Kurov, Nibali, Ivan Basso.
Les meilleurs de l'époque.
Hein. Les meilleurs de l'époque. Et on arrive au sprint. Et Pippo Pozzato gagne. Thomas Vauclair fait deux. Moi, je fais trois. Mais j'étais
avec les meilleurs.
Sûr d'être avec les meilleurs. J'étais sûr de ça. Et ça a duré.
Qu'est-ce qui a provoqué?
Oui, qu'est-ce qui a provoqué?
Comment, comment tu expliques que c'est arrivé?
Tu te retrouves dans ces.
Alors qu'une semaine avant, tu étais à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il s'est passé plein de choses. Pendant le Tour d'Italie, je pense que j'avais besoin de sortir de ma zone de confort.
Non.
Alors, j'ai trouvé évidemment tout le dopage qui vont avec le cyclisme.
Non, mais
ce qui est moment-là où il t'arrive des choses dans ta vie et clairement tu te retrouves dans un truc où le cyclisme passe pas au second plan, mais voilà, il y a cette espèce
tu ne prends plus la tête avec ta performance et c'est là qu'elle devient plus importante.
Ouais, tu prends du recul par rapport à ça. Tu te dis j'y vais, et puis après une fois que tu as touché, moi j'avais pas gagné de course depuis 5 ans hein.
C'est ça qui est incroyable, c'est hallucinant. C'est...
Première victoire après 2004,
et après, comment
tu gagnes au Tour d'Italie, c'est un truc improbable.
Et après, quand tu sors de cet état de grâce, c'est quoi ton ressenti?
Non mais t'enchaînes sur le Tour de France.
Non mais c'est sur le Tour de France où je suis maillot à poids et dans les Vosges, on me dit faut faire comme ça pour aller chercher les points. Je dis.
Mais c'était Valentin Vacheron sur un vélo.
Oui, mais alors la période où tu vas redescendre.
La fatigue, ça te prend par les petites pattes et ça finit que tu plonges un peu. Mais moi j'ai plongé uniquement sur la dernière semaine du Tour. Mais j'ai pas retrouvé un état, tu vois, où après l'état de grâce dépressif, pas du tout. Je suis revenu à la normale et j'ai bien eu conscience que cet état-là ne durerait qu'un temps et reviendrait peut-être probablement jamais. Et c'est le cas.
Tiens, on va en développer sur l'après, justement. C'est intéressant de parler de ça. Mais d'abord, Marion, je vous rappelle le vestiaire. Comment gérer l'état de grâce, Marion Bartoli? Quand tu gagnes Wimbledon, t'es en état de grâce ou pas?
Non. C'est ça qui est très, enfin, qui est vraiment paradoxal, c'est que, en fait. Quand tu commences une saison de tennis, tu sais à peu près que tu vas faire entre 70 et 80 matchs. Il y en a 5 où tu vas être dans l'état de grâce. Donc, tu as l'impression que tu te détaches de ton corps. C'est-à-dire que tu es en pilotage automatique complet.
Il y a un truc
mystique
presque. Tu peux
tenter n'importe quel coup. N'importe quel coup, tu vas le réussir. L'amorti impossible à faire, tu vas la faire. Passing en bout de course sur la ligne, elle va arriver juste sur la ligne. Tu vas servir une deuxième pour sauver une balle de break, tu vas tenter l'ace, ça va être un ace. Tu peux faire n'importe quoi, quasiment, ça va marcher. Tu vas avoir 5 matchs où tu sais pas pourquoi, tu vas préparer comme d'habitude, tu vas faire exactement la même chose, tu vas être catastrophique. Et c'est pour ça que je dis que ça arrive à tous les niveaux, parce que quand on prend par exemple Carlos Alcaraz, qui vient de perdre là au premier tour du Rolex Paris Master contre Nori, où il fait 54 fautes directes, bon, ça tombe typiquement dans ces 5 matchs où tu sais pas pourquoi. Mais ce jour-là, tu sens absolument rien. Voilà, tu sens mais rien de rien. C'est-à-dire qu'au plus t'essayes, au plus c'est horrible, au plus c'est catastrophique.
Non, mais c'est fou ça.
Et t'as envie qu'une chose seule, c'est de sortir du terrain. Et en fait, t'as tout le reste où c'est que de la bagarre. C'est que de la bagarre. C'est celui qui va arriver à plus s'accrocher, à faire la différence dans des moments importants, au mental, aller chercher une victoire. Et c'est pour ça que le parcours de Valentin est très intéressant quand on l'analyse à Shanghai. C'est que sur 6 matchs, il perd le premier set. Donc, je pense pas qu'il a été touché par l'état de grâce comme ça pendant une semaine complète où tout ce qu'il fait, il tente, il réussit, qu'il met que des toiles à tout le monde. Non, il a été obligé d'être à la bagarre. Je pense qu'il y a eu des moments dans des matchs
où
il a été à un niveau au-dessus. Mais regarde, par exemple, Djokovic. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure, c'est quasiment à tous les niveaux. Moi, je me rappelle très, très bien de finale de Grand Chelem où il joue Rafa sur dur, dont une à l'Open d'Australie que je commente, où j'ai la chance d'avoir mon poste de commentatrice qui est quasi au bord du terrain. Donc, tu vis le match avec les joueurs. Mais quand je te dis qu'il le découpe, tu dis c'est pas possible. Alors qu'il y a des finales d'Open d'Australie, comme celle de 2012, où ça se joue en 6 heures, où ça se joue à un point
toi,
ici et là,
tu vois. Donc, toi, quand tu es sur le terrain, est-ce que comment tu sens que c'est le bon jour, par exemple? Tu le sens quand tu rentres sur le central?
À l'échauffement.
Qu'est-ce que tu sens?
En fait, ça m'a touché, on va dire. T'es touché par la grâce, je sais pas. En tout cas, j'ai ressenti ça 3 fois dans ma carrière.
Mais oui,
Serena Williams, 2011 à Wimbledon. Justine Hénin, 2007, première fois sur le central de ma vie de Wimbledon en demi-finale. Et sur Victoria Azarenka, une fois en Miami, qui était sur 20, je crois 24 ou 25 victoires consécutives, qui a absolument tout gagné, et que j'arrive à battre sur dur, qui était de loin sa meilleure surface. C'est-à-dire que dans les trois fois, dès l'échauffement, quand tu fais le tirage au sort de la pièce qui va servir et tu commences à taper les premières balles, tu te dis là, ça va être un bon.
C'est quoi ça?
Comment tu te l'expliques?
Comme là, ça va être vraiment un très très bon jour.
Comment tu te l'expliques avec le recul aujourd'hui?
Mais ça s'explique pas.
Non, mais t'as pas d'explication rationnelle, c'est ça.
Il n'y a pas d'explication rationnelle, mais t'as l'impression que tout va au ralenti. C'est-à-dire que t'as l'impression que Serena.
Ça s'arrête jamais, quoi.
Ouais. Et tu veux jamais sortir du terrain, parce que c'est la meilleure sensation du monde. Parce que enfin, tout ce que t'as travaillé, tout ce que t'essayes de mettre en place, tout ce que t'arrives à faire à l'entraînement, que normalement t'arrives pas à faire en match parce que t'es rattrapé par la pression, le stress, par le vent, le soleil, par tout ce que tu veux, bah là, il y a tout qui réussit, quoi. Donc, c'est-à-dire que tu t'as l'impression de te dire, bah là, j'ai bossé pendant 15 ans ou 20 ans pour arriver à un niveau. Et là, ouais, là, enfin, bah, je sais ce que je sais d'être relâché, de taper la balle au centre de la raquette à chaque fois, de jouer à 10 cm de la ligne à chaque fois, de mettre le service exactement où tu veux à chaque fois. Mais t'as vraiment la sensation, et pour en avoir discuté avec d'autres joueuses, que tout vient au ralenti. C'est-à-dire que la balle de tennis, un ballon.
C'est ce que disait Denis aussi.
C'est extraordinaire.
Votre vie privée de ces moments-là est en adéquation avec vos performances sur le terrain.
Oui, complètement.
Est-ce que vous êtes tout amoureux, tout va bien dans votre vie?
Absolument.
Est-ce que c'est un cadre qui crée ça?
Non, mais tu as entièrement raison. Je voulais poser la question à Jérôme tout à l'heure aussi. Ça fait partie de ta vie personnelle. Comment tu la vis au quotidien? Et moi, je la vivais très bien. J'étais bien dans ma tête.
Donc, toi, ça fait partie des explications que tu donnes. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que c'est un peu irrationnel.
Qu'il soit pas raison d'en parler, de l'évoquer, parce qu'effectivement, tout c'est lié quand même. Il y a le sportif et puis il y a celui qui vit le sport. Donc, moi, c'est vrai que j'étais dans une période faste et j'étais bien dans mes baskets, comme Jérôme était bien dans ses baskets, je suis sûr.
Au top, dans mes baskets, dans mon cuissard, j'étais bien partout. C'est pour ça que tout
j'en étais sûr que ça allait dériver. C'était certain que ça allait dériver.
C'était pas possible autrement.
Denis,
il est content.
Vous pouvez pas comprendre, mais nous deux qui comprenons.
C'est aussi, effectivement, quand tu retraces ces périodes-là, tu sais qu'il y a quelque chose qui t'emmène vers cet état-là. C'est surtout le fait de sortir. Pour mon cas, de sortir du quotidien, de sortir de le sport. Voilà, c'est ça. Ouais. T'es ailleurs,
de connaître autre chose à côté,
d'avancer sur plusieurs projets.
Non, mais pour le coup, on l'a un peu évoqué il y a quelques instants. Mais comment on vit aussi en sachant que c'est pas le quotidien, ça? Qu'on va pas jouer toujours à ce niveau-là.
Mais c'est pour ça qu'on est tous un peu. Je pense, en tout cas dans le tennis, c'est pour ça qu'on est tous un peu superstitieux et qu'on essaye justement de se raccrocher à des trucs. En disant ben alors si je prends ce côté-là, c'est là où j'ai mieux joué, où j'ai mieux senti la balle, donc faut que je refasse pareil, faut que j'aille manger au même resto,
tu sais,
faut...
on s'accroche à des trucs,
par exemple prenons Roger, on avait l'impression que tout lui était pas touché par l'état de grâce quasiment tout le temps. Bah, il avait quand même ses petits rituels, et même pourtant Roger, où tu te dis bon bah là c'est le génie à l'état pur, quoi. C'est-à-dire que s'il y en a bien qui a pas besoin entre guillemets de s'accrocher à des petits trucs, c'est bien lui. Bah, même lui, tu vois, il s'accrochait à des petits porte-bonheur.
Denis, tu me disais que quand t'avais pas le maillot du Stade Toulousain, par exemple, tu te sentais pas aussi fort peut-être que quand t'avais le maillot du Racing, par exemple.
C'est intéressant, il y a aussi l'emballage. Quand j'ai changé de club chez le Racing, c'était extrêmement difficile pour moi de m'adapter à un nouvel environnement, un nouveau maillot. Et je me souviens très bien que le maillot, c'était au départ très difficile à porter parce que j'avais ce maillot qui me collait à la peau du Stade Toulousain, qui faisait partie de moi, où j'avais été trois fois champion de France avec le Stade Toulousain, donc j'avais presque tout gagné, et c'est vrai que ça avait été un vrai choc, et il a fallu me
mais pourquoi ça compte, ça? Il faut sentir bien en dehors de sa vie, dans son environnement,
c'est le club, c'est le collectif, c'est les coéquipiers, c'est le nouveau président, le nouveau président, il y a tout un environnement avec lequel il faut s'adapter, et c'est très compliqué quand tu changes de club.
Moi, j'ai vécu ce moment-là aussi de changer de maillot. Je suis arrivé chez Quickstep, je portais un maillot d'une très grande équipe.
Ah bah t'avais le maillot du Real Madrid, hein, il faut le dire.
Et pour le coup,
t'as ressenti la même chose?
Je me suis senti beaucoup plus fort. J'avais moins de complexe.
Donc c'est l'inverse. Enfin, pour moi, c'est donc c'est intéressant ce qu'il dit, Jérôme.
C'est souvent intéressant ce que je dis.
Ma première année
Quickstep, j'arrive dans cette équipe Trophée de Majorque. Je suis battu que par Antonio Colom. On sait où il a fini parce que j'étais mais sûr de tout péter quoi. J'avais ce maillot qui me portait.
C'est incroyable.
Non mais du coup c'est intéressant Marion. Est-ce que toi aussi finalement le cadre, le lieu, par exemple le Center Court de Wimbledon ou un Grand Chelem, fait que tu arrives mieux à arriver à cet état un peu second quoi, de pour t'exprimer au plus haut niveau. Tu penses?
En tout cas, effectivement,
parce que les trois matchs que j'ai cités,
il y en a deux à Wimbledon.
Et ouais, voilà.
Mais oui, mais il y en a deux à Wimbledon. Mais en fait, le je sais pas si c'est le cadre. Non, mais si c'est le cadre ou si en fait si c'est la prise de conscience de l'enjeu du match ou de l'adversaire que tu joues, c'est-à-dire
là,
Serena
c'est
Williams et voilà, et la goat absolue du tennis féminin sans discussion possible. Et en plus, tu joues dans le mythique tournoi de Wimbledon. Donc là, tu dis bon bah là, si tu prends une branlée, tu vas quand même être un tout petit peu ridicule. Alors, j'aurais pas été la première ni la dernière, hein, mais bon, autant essayer de faire quelque chose de correct. Et c'est vrai que c'est tombé sur un des jours où, franchement, en 2013, je joue beaucoup moins bien au tennis que quand je bats Serena en 2011. Et malgré tout, mais quand même truc incroyable du destin, je perds sur Liziki le match derrière en faisant un match correct, mais en retombant entre guillemets dans mon niveau normal, et je perds contre elle. T'imagines, en 2011, alors que deux ans plus tard, je rejoue contre la même joueuse, je joue moins bien.
Bah oui.
Mais là, pour le coup, dans un état mental différent, bah, j'arrive finalement à inverser le résultat par rapport à deux ans auparavant. Donc, cet état-là, il est quand même
lié à la psychologie du moment.
Il est très traître parce que quand tu retombes à un niveau, on va dire, plus classique. Alors, ça, je ne vais pas juger pour mes copains, la descente, elle est compliquée. Ouais, mais je peux te dire qu'elle est vraiment dure.
C'est pareil dans tous les sports. Moi, ce que je sais, c'est que être arrivé à ce niveau dans cette fameuse année 2010, là, alors que j'étais professionnel depuis 2002. Je sais que c'est pas normal. Donc tu t'enflammes pas.
Pourquoi tu l'as pas vécu avant? Tu te dis pourquoi ça arrive maintenant et pas hier?
Tu te demandes pourquoi, mais tu sais pas trop en fait.
Mais oui, t'as pas la réponse.
Moi je dis juste que pour en revenir au maillot et au terrain et à l'endroit, moi je pense, j'ai toujours pensé que si j'avais été champion de France, porter ce maillot-là, j'aurais fait un bien meilleur coureur. En tout cas, l'année où j'aurais porté ce maillot, ouais.
Parce que ça t'aurait apporté.
Ça te donne
comme
la confiance.
Pogacar avec son maillot de champion du monde arc-en-ciel toute l'année, peut-être.
Porter maillot à poids sur le tour. Porter maillot à poids sur le tour m'a rendu meilleur en montagne.
Ben oui.
C'est vrai.
Bien
je suis sûr.
C'est certain.
Sur la
traversée
des Alpes en 2010, je suis on fire toujours.
Et
si j'ai pas le maillot à poids, je fais pas le.
Et ce maillot, ça faisait que tes adversaires te respectaient davantage.
Ouais, puis t'as confiance.
Et t'as confiance en toi, elle est couplée.
Tu te changes, tu vas au podium.
Tu te
regardes
la
main,
tu te trouves beau.
Tu te trouves fier.
Et les petits poids.
Pas que moi, mais ouais, je vois.
Mais en fait, c'est hyper important. En fait, c'est de l'estime de soi.
Bien sûr.
Mais bien sûr.
Sur toi, et quand tu as un potentiel, et qu'en plus, t'as confiance dans ton potentiel et en toi, tu es un bon sportif en général.
Par exemple, j'imagine Christophe sur les plages brésiliennes, il arrive avec sa planche là. Il dit ça fait quelques jours que je fais du kitesurf, mais je suis devenu
la planche cassée, la main cassée, là j'étais moins bien.
Ouais, mais là t'as surestimé ton potentiel.
L'état de grâce est parti assez vite. Ça, ouais. Merci les GG du sport, on referme la porte de votre vestiaire. Comment gérer l'état de grâce? On a compris, il y a un peu de tout, hein. Franchement, c'est intéressant.
Ouais.
Il y a de l'irrationnel, il y a de l'expérience, il y a du mystique. Il y a aussi parfois, comme nous dit Philippe sur WhatsApp au 06 12 424 424, c'est intéressant de vous entendre sur le flow. Voilà, quand on a le flow, c'est-à-dire le style, on sent aussi parfois, on se sent en confiance et on peut être plus performant.
Non, mais dans la vie de tous les jours, tu te fais beau.
Tu sais, parfois, chez les filles en tennis, ça compte beaucoup.
Ah ouais, le flow.
La tenue que tu as, ça compte énormément, je peux te le dire.
Moi, quand je mets un petit col roulé un peu sombre, là, je me sens un peu, tu vois.
Ouais,
je me sens un peu, tu vois, Steve Jobs.
Moi, j'ai vu Christophe Cessieux saper comme Jaja la fistinière dans l'autre, il était dans un tas de grâce.
Alors là, la perception de Christophe Cessieux à la festinière dans le Lot, je m'y attendais pas du tout. C'est quand même.
Non, mais Christophe, ça fait 20 ans qu'il est dans l'état de grâce. Donc,
pas vraiment. Il a perdu son émission, l'état de grâce.
Il y a une histoire d'amour aujourd'hui entre Christophe et Marion. Sacrée nouvelle saison.
Et c'est nous, on est comme ça avec Marion. On s'aime, on se déteste, C'est comme ça.
C'est ça les histoires d'amour, les vraies histoires d'amour passionnelles.
Les histoires d'amour.
Là, en face, là.
On attaque.